Bonjour, bonjour, bienvenue sur Fake Press. Ce que vous allez entendre est un extrait de l'émission. Il s'agit de la séquence Allô, c'est toi. Bonne écoute.
Allô, c'est toi ? Oui, non, mais j'ai pas le temps de dire vous. Si on commence à dire vous, non.
Alors, nous avons avec nous Florence Rode. Florence Rode qui a écrit un roman policier qui s'appelle La confrérie des loups. La confrérie des Louvres. Oula, je recommence. La confrérie des Louvres aux éditions du Caïman. C'est son premier roman, il me semble, et elle est avec nous. Bonsoir, Florence.
Bonsoir. Ça va ?
Très bien.
Merci de me recevoir, c'est très gentil.
Bonsoir, Florence.
Merci surtout d'avoir accepté l'invitation de Radio Campus et de Fake Press. Avant de démarrer un petit peu l'interview et de parler de votre roman un peu plus en détail, je vais vous poser une question simple, la plus basique qui soit. Qui êtes-vous ?
Voilà, bah, comme vous l'avez dit, je m'appelle Florence Rode. J'habite à Vincennes et j'écris des romans depuis longtemps. Celui-là, j'ai eu envie de le faire publier. Voilà, ça m'a pris comme ça. Et donc, je l'ai adressé à différentes maisons d'édition et il a trouvé preneur effectivement aux éditions du Caïman. Voilà, donc je suis passionnée de romans policiers et plus particulièrement de romans à énigmes. Je pense que ça se voit un peu dans le bouquin. Et donc je suis très fan de toute cette lignée d'auteurs de romans à énigmes, comme le sont Agatha Christie, Stiman, Dixon Carr. C'est vraiment, enfin, les pères fondateurs du roman à énigmes. Et d'ailleurs, le roman énigme, c'est en soi-même le père fondateur du genre policier. Et donc voilà, j'avais envie d'écrire un whodunit, un nombre limité donc de suspects et puis un enquêteur qui essaye de savoir lequel de ces suspects est réellement passé à l'acte.
Et l'assassin. On va revenir un peu plus tard sur l'histoire même sur l'intrigue et sur les personnages. Juste avant, en regardant votre site internet, florencerode.com, on mettra le lien sur notre site internet et sur le site de la radio. J'ai vu une mention aux Red Sisters. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement ?
Ah oui, alors les Red Sisters, en fait, c'est un groupe de trois auteurs. On est un trio d'auteurs qui s'appelle les Red Sisters, avec mes deux collègues, en fait, qui sont Yamina Mazouz et Cécile Callan. Ce sont deux auteurs, en fait, que j'ai rencontrés que je ne connaissais pas du tout avant, que j'ai rencontrés sur des salons où on était invités toutes les trois en tant qu'auteurs. Et puis, on a découvert qu'on avait des points communs, on a le même humour, on est un peu sur la même longueur d'onde, on ne se prend pas du tout au sérieux. Et à la fin du salon, c'était à Lalande, je crois, en Dordogne, on s'est dit, finalement, plutôt que de repartir chacune chez soi, pourquoi est-ce qu'on ne montrait pas un groupe qui s'appellerait… Alors on a commencé à discuter là-dessus et on s'est dit, voilà, on va s'appeler les Red Sisters, on va faire une page Facebook et puis on va mettre un peu nos actus, nos délires, tout ça. Et effectivement, on a lancé la page il n'y a pas très longtemps et on l'a ouverte avec un concours. Il y avait une sorte de quiz avec des questions qui portaient sur nous trois, et puis également sur les adaptations de romans au cinéma, notamment de romans policiers, parce qu'on aime bien le cinéma aussi. Donc voilà. Mais c'est plutôt, si vous deviez me demander une définition des Red Sisters, c'est trois copines auteurs qui aiment bien déconner ensemble. Voilà.
Ok, super. On mettra le lien aussi du coup de la page sur le site de la radio. On va parler un peu plus du livre. Alors avant toute chose, alors vous l'avez déjà dit en intro tout à l'heure, sur la couverture on peut écrire polar, on peut lire polar, pardon, mais moi j'ajouterais plutôt whodunit ou roman policier, parce que c'est un vrai roman à énigmes, dans le sens où le lecteur peut trouver des failles dans le récit, dans les témoignages, peut déduire de lui-même qui est l'assassin. Et je trouve ça déjà super comme roman. Et surtout, la solution, elle est non seulement ingénieuse, Non, mais elle est tout à fait logique, quoi. Ce côté goudonite, c'était important pour vous, du coup ?
C'était très important. C'était très important, effectivement, parce que, comme je disais, alors, j'ai l'habitude de dire, bon, c'est un peu, c'est pas tout à fait vrai, mais j'ai l'habitude de dire que j'ai appris à lire avec Agatha Christie. En réalité, l'été de mes 11 ans, je m'emmerdais comme un rat mort. On était à la montagne avec mes parents et j'avais emprunté tout un tas d'Agatha Christie à la bibliothèque. Et je les ai lus les uns après les autres et j'ai fait que ça de tout l'été. Et j'ai trouvé ça vraiment, effectivement, cette formule, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai trouvé ça vraiment complètement, complètement génial de présenter un certain nombre de suspects, de dérouler l'histoire et finalement, à la fin d'un roman à énigmes, s'il est bien écrit, bon, ce qui était le cas avec Agatha, on n'a pas de souci à se faire là-dessus, on doit se dire, mais oui, c'est évident, alors qu'en fait, on a eu la solution sous les yeux sans la considérer vraiment. Et je pense que l'âge aidant, j'ai toujours eu des affinités avec l'écriture, avec la littérature, mais j'ai eu envie de me tourner un peu vers ce genre-là parce que quelque part, il y avait cette question qui me taraudait. Est-ce que moi, je serais capable de balader un lecteur? Est-ce que je serais capable de lui faire prendre des vessies pour des lanternes, en fait? Comme moi, j'aime qu'on me balade, parce que, bon, il y a Agatha Christie dans mon adolescence, mais aujourd'hui, vous avez quand même un certain nombre d'auteurs de polars, par exemple comme Pierre Lemaitre, qui sont tout à fait capables de vous présenter des faits en attirant votre attention sur autre chose et qu'à la fin, vous vous dites « Mais oui, bien sûr, mais pourquoi je ne l'ai pas vu ?» Et voilà, et je me suis vraiment demandé est-ce que moi, je serais capable de le faire et quelque part, dans ce travail d'écriture, il y a aussi une curiosité. Voilà, j'ai essayé de relever un défi avec ce livre.
Bon, alors moi, je vous rassure, vous m'avez baladé. Hein.
Merci beaucoup.
Du début à la fin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en découvrant la vérité, en découvrant la solution qui était sous mes yeux depuis le début, j'ai été estomaqué, j'ai applaudi tout seul dans mon fauteuil.
Merci.
Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord déjà un petit peu le pitch, comme on dit, de l'histoire, comment ça commence?
Oui. Alors, en fait, la confrérie des Louvres, ça commence avec… c'est l'histoire, en fait, de quatre amies d'enfance qui sont très différentes, qui sont un petit peu stéréotypées. Hein. Je dirais, il y en a une, c'est vraiment un canon, elle est très belle, elle joue beaucoup de son physique. La deuxième, c'est vraiment la tronche, c'est l'intello, elle a le QI d'Einstein. La troisième, c'est un peu l'artiste maudite qui peint des trucs un peu malsains, mais enfin ça plaît beaucoup. Et la quatrième, finalement, c'est plus difficile de la faire rentrer dans une case, dans un tiroir, mais quand on a besoin de la décrire, on dit c'est celle qui est mariée à un très beau type qui s'appelle Édouard Schaeffer. Et voilà, elle se définit un peu par rapport à son mari. Et en fait, le roman démarre au moment où ce fameux Édouard Schaeffer, qui est restaurateur, est trouvé assassiné dans la cuisine de son restaurant. Or, il y a un témoin qui suit une silhouette féminine s'éloigner de la scène de crime et qui la suit dans les ruelles, jusqu'à un immeuble où elles dînent toutes les quatre, finalement. Donc, le point de départ du roman, c'est une de ces quatre femmes a tué Édouard. Alors, après, dans le roman, on découvre qu'elles avaient toutes une bonne raison de le tuer. Mais laquelle? Voilà, Goudounitz, laquelle? Sachant qu'il y a un clin d'œil complètement assumé au fameux roman L'assassin habite au 21 de Stiman, qui est un petit peu le même point de départ. Donc, ça se passe, l'assassin habite au 21, ça se passe à Londres, il y a le brouillard et tout, mais en fait, c'est un peu le même principe. On sait que c'est une des quatre, et laquelle? Voilà.
Ok, merci. Vous avez parlé de personnages stéréotypés. Je veux bien y revenir un peu dessus, un peu, parce qu'ils ne sont pas juste stéréotypés. Je vais vous dire, moi, comment je les ai trouvés, vos personnages. Je voudrais savoir... je vais dire deux, trois extraits, si vous me permettez, hein, pour le style. Donc, ça commence un petit comme ça. Tiens, c'est toi, tu passais dans le coin. Il m'a posé la question quand j'ai franchi le seuil de la cuisine. Je l'ai salué d'un sourire un peu hésitant, la main crispée dans la poche sur le manche du choker électrique. La question m'a traversé l'esprit, dans toute son absurdité. Doit-on sourire à un homme qu'on est sur le point d'assassiner? Ça commence à peu près comme ça. Et un peu plus loin, le gros auvergnat les menaçait toujours de les pendre à des crocs de boucher s'ils ne retrouvaient pas les assiettes vides en les débarrassant. Sur ce, il éclatait de rire et leur administrait une vigoureuse claque dans le dos. La femme d'Emelin, Élise, adorait en revanche ses repères de bobo où les serveurs vous souhaitent d'un ton lugubre une bonne dégustation, comme si l'expression « bon appétit » pouvait leur brûler le palais au napalm. Alors, je trouve que ces deux extraits, ça donne bien le ton du début du livre. C'est-à-dire que c'est un ton, j'ai envie de dire, un peu faussement léger, d'humour un petit peu à froid, et que plus on avance dans le livre, plus ça se complexifie. Et l'histoire... Et les personnages. Alors, les personnages, j'y viendrai un petit peu après, mais sur le style, c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête avant de commencer à écrire, ou c'est venu en faisant peut-être des têtes de scène comme ça?
Non, 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 non. C'est complètement aléatoire là-dessus. J'ai pas vraiment réfléchi à est-ce en termes de style, il va y avoir une évolution, une montée en puissance ou quoi. J'ai pas vraiment réfléchi comme ça. Quand je l'ai écrit, ben, y avait des choses qui me venaient à des moments. C'est vrai que pas très longtemps avant d'écrire la première scène, la deuxième scène que vous avez mentionnée, j'étais dans un restaurant avec mon mari et puis alors, le serveur très guindé, bonne dégustation. Et je lui ai dit, mais depuis quand l'expression « bon appétit » a complètement disparu? Enfin, est-ce que vraiment on est obligé de considérer un bon repas comme quelque chose d'extrêmement sophistiqué, d'extrêmement guindé? Et voilà. Et je l'ai noté. Et voilà. Et après, ça me revient. Il y a des choses qui me reviennent au fur et à mesure où j'écris les scènes, mais… Leur positionnement dans le récit, par contre, c'est pas forcément prémédité, on va dire.
D'accord. Comment vous avez écrit le scénario? Vous avez des carnets de notes, vous aviez un plan ou tout était dans votre tête?
Alors, en l'occurrence, la première scène, hein, la scène, la personne effectivement, celle-là, je l'ai écrite un soir où j'étais au boulot, je m'ennuyais et puis mon mari devait passer me prendre. Et donc, j'ai écrit cette page-là, mais comme ça, enfin voilà, sans aucune arrière-pensée, sans me dire c'est le début de quelque chose ou quoi. Et en faisant du ménage dans mes fichiers électroniques, quelques temps après, je l'ai retrouvé, je l'ai relu, et je me suis dit, bah, tiens, c'est pas mal, ça ferait un bon début de roman. Et j'ai bâti un scénario à partir de cette première page. Et heureusement d'ailleurs parce que je suis complètement, enfin je sais que, enfin vous allez trouver autant de façons de travailler qu'il existe d'auteurs de livres, mais moi en tout cas je suis complètement incapable de finir quelque chose qui n'est pas l'objet d'un plan vraiment précis, préétabli, chapitre 1, il se passe ça, ça, ça et ça, on dit ça, on apprend ça, on sait que, machin. Mais après, une fois que je démarre l'écriture, j'ai mon plan, qui est indispensable, mais je ne m'en sens pas forcément prisonnière. Et je peux, si ça me dit, je peux changer la fin si je trouve que finalement elle est bancale, si je trouve que voilà, c'est. Mais par contre, c'est vraiment la charpente sans laquelle je. Bah, mes tiroirs sont pleins de débuts d'histoire où j'avais pas fait un plan. Donc okay. Voilà.
Alors, je disais tout à l'heure que le roman se complexifie au fur et à mesure qu'on avance. C'est de même pour les personnages. Hein. Donc, ils nous apparaissent d'abord caricaturaux. Donc, on a le flic Abel Hamelin, le commandant chargé de l'affaire, qui nous apparaît d'abord comme un raciste, quand même, l'air de... Mm-hmm. Je vais lire un
petit peu. Oui, allez-y.
Un extrait qui m'a fait rire. Une dernière remarque, donc c'est le commandant qui parle. Une dernière remarque, tu parles drôlement bien le français pour un indien. Le jeune homme le considéra en silence. Ma famille est installée à Villejuif depuis 3 générations et je prépare l'agrégation de lettres. Ça doit sans doute avoir un rapport. Sous la neutralité du ton, l'ironie effleurée. Hamelin s'éloigna et glissa à l'oreille de Martins, qui est une de ses lieutenantes, on va dire. Comment est-on supposé distinguer ceux du passage Brady, tout juste débarqué du Taj Mahal Land, des futurs maîtres de conférences. Donc, on aperçoit un petit peu c'est notre premier quasiment contact avec le détective. On voit qu'il a une passion pour la grand-mère aussi. Et puis après, il nous sort ça. On se dit, mon Dieu, mais on va avoir affaire à un flic.
Ça va être terrible de se fêter les 400 pages.
Oui, c'est ça. Je me suis dit, on va avoir affaire à un flic raciste tout le long. Et au fur et à mesure, lui aussi se complexifie. Et on apprend pourquoi il a cette méthode là d'approche. Et c'est pareil pour les 4 suspects principales. C'est-à-dire que, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a la beauté fatale, la directrice d'un cabinet d'un ministre qui est une très intelligente, etc. Il y a l'artiste torturé. Alors, je vais dire peut-être le penser de un peu plus tard. Mais là, avec qui vous n'êtes pas tendre, quoi. Artiste. Et puis, donc on voit comme ça des archétypes, et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre et que l'enquête avance, elle se complexifie et ça devient moins des caricatures, quoi. Ça, vous l'aviez déjà en tête, cette...
Oui, ça par contre, tout à fait. Ça par contre, c'était quelque chose que j'avais en tête. C'était que vraiment mes personnages, ils donnent vraiment une impression première. C'est intéressant que vous releviez notamment l'exemple d'Hamelin, parce que il y a cette scène au début effectivement avec l'Indien où on se dit oh là là, celui-là il va être difficile à supporter. Et puis un petit peu plus loin dans le roman, à un moment il interroge un jeune roumain qui est SDF et je trouve que cette scène là est vraiment, en tout cas dans mon esprit, caractéristique de Hamelin, c'est-à-dire qu'il commence à lui dire en gros qu'est-ce que tu fous là, enfin personne t'a, je crois qu'il dit de mémoire, personne t'a demandé, parce que l'autre il dit moi je suis venu pour avoir une vie meilleure, pour avoir de l'espoir, ce qui est complètement légitime. Et Hamelin lui répond un peu sèchement écoute, personne t'a demandé de venir squatter dans un pays qui est connu pour son taux de chômage élevé et pour son manque de logement. Donc en gros, la ramène pas. Mais 5 minutes plus tard, il arrive à trouver du travail, parce que pour lui, quelqu'un qui veut travailler mérite de travailler, et voilà. Et c'était et le restaurateur également. Enfin, sans trop déflorer le livre, passe assez rapidement pour un salaud, et il a certains côtés qui sont complètement inexcusables. On va pas tout raconter, mais c'est un peu l'opposé d'un chic type. Mais il a quand même des côtés de lui, par exemple en amitié, qui le rachète un petit peu, voilà. Et je pense que c'est assez caractéristique. Moi, je connais personne qui soit tout blanc ou tout noir. On a tous dans nos amis des gens qui ont telle caractéristique, mais c'est pas une vérité absolue gravée dans le marbre qui ne se dément jamais. Et je trouve que ça crédibilise les personnages d'avoir un petit peu plus de nuances. Et oui. Les femmes aussi, comme vous disiez, les femmes ont ce côté majoritaire, on va dire, mais c'est pas que ça.
Alors, en filigrane, on va raconter aussi l'histoire d'une amitié, des liens qui unissent les gens entre eux, que ce soit les quatre femmes, qui sont, qui à mon avis sont la confrérie des Louves du titre. Mais aussi les liens vers de la police. Et autant pour les quatre femmes, on vous décrivez quelque chose, une relation vraiment toxique, autant je trouve que la relation entre tous les policiers, même si elle n'est pas au bout fixe, je pense notamment à Marcus, on va pas spoiler, on va rien dire, mais je trouve qu'ils ont quand même, du côté de la police, une relation beaucoup plus adulte que les...
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne lecture. Les flics, en fait, ont une relation certainement beaucoup plus bourrue, beaucoup plus brute de décoffrage, mais il y a du respect, il y a de l'estime, il y a des relations de travail qui sont... malgré tout, ils font toujours passer l'enquête avant, ils se respectent. Alors que les quatre femmes, c'est une amitié d'enfance qui s'est nouée. Bon, on ne va pas spoiler non plus, mais bon, il y a eu un moment, un drame qui les a complètement soudées. Mais finalement, c'en est devenu très malsain parce que elles, au contraire, elles font passer vraiment cette amitié-là, cette relation-là, avant tout le reste, avant la famille, avant le boulot, avant toute chose. Et il y a aussi une prise de conscience pendant le roman, bah que peut-être c'est pas forcément une très bonne idée d'avoir des liens aussi proches, aussi forts, et surtout qui excluent finalement tout ce qui n'est pas dans cette relation un peu trop fusionnelle. Et je crois qu'à un moment c'est Clémence qui dit c'est finalement cette relation, ça a été notre bouée de sauvetage, mais c'est aussi une arme de destruction massive. Et voilà, enfin bon, sans trop dévoiler, il y a quand même une prise de conscience par rapport à ça, et elles finissent par agir en fonction de ce constat.
J'ai une dernière question. Est-ce qu'on on retrouvera l'équipe du commandant Hamelin dans un prochain roman, éventuellement?
Alors oui, tout à fait. Hier, je viens d'envoyer mon manuscrit suivant qui remet en scène Hamelin et son équipe. Enfin, ça se passe quelques mois après. Après, je peux rien dire, mais autour d'une nouvelle enquête.
Et j'ai failli oublier d'en parler, mais votre roman a reçu le prix d'Horace Suarez.
Okay. Ouais, alors le prix d'Horace Suarez, en fait, c'est un prix qui a été mis au point par Ludovic Francioni, qui était fan du roman de Robin Cook, J'étais d'Horace Suarez, et qui a décidé de créer un prix qui portait ce nom. Donc, le prix d'Horace Suarez, qui récompense chaque année des auteurs de polar dans différentes catégories. Alors, il y a le Grand Prix, le Prix Découverte. Enfin, moi, j'ai eu le prix du premier roman. Et donc, je profite de l'occasion pour le remercier parce que c'est vraiment quelque chose qui m'encourage à continuer à sévir dans l'écriture, on va dire. Et puis, la deuxième chose, c'est que bon, je croise les doigts. Hein, c'est pas du tout fait, mais il y a une société de production qui a posé une option pour une adaptation télévisée de La Confrérie des Bouffes. Donc, encore une fois, ça reste à faire, mais bon, affaire à suivre.
Florence Rode, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre roman s'appelle La Confrérie des Louves. C'est aux éditions du Caïman. C'est un roman policier, un goudonite, plus qu'un polar, à mon sens. C'est un excellent roman que je vous recommande à tous. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait reçu le prix donc, d'Horace Suarez quand on lit le... Quand on lit le roman, on comprend pourquoi. Merci beaucoup.
Merci à tous. Merci, Edgar. Merci à tous.
À bientôt.
Merci.
À bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir.
Retrouvez Fake Press, l'émission complète, trois fois par mois sur www.fakepress.fr, mais aussi sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, etc., ainsi que sur quasiment toutes les applications smartphone. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.